Alors, bon matin à tous. Et donc, je vous apporte un message sur la formation spirituelle des enfants. Je pense que ça s'applique quand même à tout le monde. Et je pense pas que j'ai le monopole ou la perfection dans ce domaine-là, mais je pense que moi, ça me fait du bien aussi de voir l'importance que Dieu accorde à la formation spirituelle des enfants. Donc, pour commencer, j'aimerais ça qu'on ouvre la parole dans le texte de 1 Samuel, chapitre 2, au verset 11-18. Donc, on est dans l'Ancien Testament. Juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, ceux qui ne connaissent pas tellement ces coutumes-là, c'est qu'à l'époque, Dieu demandait au peuple d'offrir des sacrifices de toutes sortes, des sacrifices pour le pardon des péchés, des sacrifices d'action de grâce pour remercier Dieu. Il y avait tout un rituel, toute une façon de faire. Il y avait des personnes précises désignées pour faire ce service-là. Donc, il y avait un sacrificateur. Dans ce cas-ci, à cette époque-là, il y avait Élie, puis il y avait ses fils qui étaient dans la vingtaine. Et il y avait toute une procédure. Bon, les gens amenaient la viande était cuite, il y a une partie qui pouvait aller au sacrificateur, une partie qui était brûlée, il y avait toute une façon de faire. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Donc, au chapitre 2, au verset 11, Elkanah, qui se trouve le père de Samuel, s'en alla dans sa maison à Rama, et le garçon, Samuel, fut au service de l'Éternel, auprès du sacrificateur Élie. Donc, il y a Élie, au temple, avec ses deux garçons, et Samuel qui lui a été confié, qui est tout petit, qui a été confié par sa mère, il a été consacré. Donc, les fils d'Élie étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, une fourchette à trois dents à la main. Il piquait dans la cuve, dans la chaudière, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais de la viande crue. » Et si l'homme lui disait, « Non, on fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je le prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi quand vous lisez ce passage-là, mais moi, j'ai toujours un peu de tremblement à me dire, « Mon Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent agir comme ça? » On sait que Dieu est grand, Dieu est bon, mais Dieu est un feu dévorant aussi. Et je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ces fils-là, mais comment se fait-il qu'ils en sont venus là? Comment est-ce qu'ils ont pu en venir jusque-là à... non seulement à être indifférent, mais ils sont actifs dans le ministère et ça dérange pas, on se fout et on méprise. Et c'est les gens qui apportent des choses pour offrir à Dieu. Et non, on méprise ça, tout ce qu'on pense, c'est manger. Élie, là-dedans, comment ça se fait qu'il a laissé ses fils dans le ministère faire des choses comme ça, puis il est quand même au-dessus d'eux autres? Comment ça se fait que ses fils ont pris cette direction-là, puis qu'ils ont laissé dans le ministère. Samuel, il est tout petit, il a été confié par sa mère après que sa mère a lui fait une prière, puis que Samuel fut conçu. La mère de Samuel, Anne, elle avait promis à l'Éternel de lui consacrer. Donc Samuel, il est là, tout petit, il a peut-être 6 ans à ce moment-là. Les deux grands gars qui font plein de... ils disent qu'ils sont des vauriens. Il y a Élie. On peut se demander, mais qu'est-ce qui va arriver à Samuel? Dans quelle sorte d'environnement est-ce qu'il vit? On va continuer un peu plus loin dans 1 Samuel 2 toujours. On va sauter au verset 26 jusqu'à 30. Donc, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel, aussi bien qu'aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, Ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père lorsqu'en Égypte, ils appartenaient à la maison du Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et le phare de la part des Israélites. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et là, il s'adresse à Élie en particulier, le Seigneur, et dit, « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi? » afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. » Donc, ici, Dieu semble mettre le doigt sur un problème où Élie, en tant que chef ici du sacerdoce, quelque part, il a laissé ses fils prendre une direction. Puis en les laissant prendre cette direction-là, il démontrait qu'il honorait plus ses fils que l'Éternel. Alors, je pense que c'est quand même, je vous lance ça pour le départ, parce que il y a toujours des bons exemples et des mauvais exemples dans les Écritures, puis en même temps qu'on a les fils d'Élie, en même temps qu'on a le jeune Samuel qui continue à grandir et qui est agréable à l'Éternel et aux hommes, un peu comme Jésus l'était. Donc, à quoi ça sert la formation spirituelle? Quels sont les besoins des enfants dès leur naissance? Donc, les besoins physiques. Le bébé, il arrive, il pleure. Il a besoin de respirer, j'imagine. Hein? Le premier cri qu'il fait, c'est pour respirer. Manger, boire, d'être gardé au chaud. Des besoins émotionnels aussi, d'être aimé, d'être consolé, d'être touché. Il y a même un phénomène. Mon mari, quand il faisait ses études de médecine, il y avait un bébé qui, en anglais, il dit « thrive »,« failure to thrive ». Le petit enfant, il prenait pas de poids, puis il grandissait pas, puis ils l'ont examiné. C'était un petit bébé dont le père était médecin, mais très occupé. Puis le diagnostic, ça a été qu'il manquait d'amour. Il y avait personne qui le prenait, il était en carence affective, puis ça l'empêchait de se développer. Alors, on pense que c'est naturel, puis la personne était quand même en place pour connaître qu'est-ce qui se passait, mais dans la vitesse de la vie, même ces besoins-là avaient un impact. Il y a les besoins cognitifs, hein? Les enfants, on voit qu'ils ont besoin d'être stimulés. Si on les stimule pas, ils font des mauvais coups. Même si nous, ce qu'on interprète des fois comme des mauvais coups, c'est qu'ils cherchent à découvrir, ils ouvrent des tiroirs, ils renversent la poudre, les maquillages des parents, ils essayent tout. Donc, ils ont vraiment besoin d'être poussés, de comprendre, de saisir. Ils ont besoin de se développer à ce niveau-là. Il y a aussi au niveau social, les enfants ont besoin de certains moins que d'autres, peut-être, mais c'est quand même quelque chose à développer, d'entrer en relation les uns avec les autres. Et la base, c'est vraiment leurs parents, ensuite leurs frères et sœurs. Et les besoins spirituels. Est-ce qu'un enfant peut survivre si on ne le nourrit pas spirituellement? Alors, j'ai dit malheureusement oui, parce que on le voit autour de nous. L'enfant, ceux qui ont des enfants ou qui ont côtoyé des enfants, l'enfant va se plaindre, hein, quand il a faim. Maman, j'ai faim. Ah, plus que 3 fois par jour, on entend ça. J'ai froid. Je me sens pas bien. Je me sens malade. J'aimerais ça voir un ami. Je m'ennuie. Donc, souvent, ces besoins-là vont être exprimés par l'enfant. Mais est-ce que vous avez déjà, en tout cas, moi, ça m'est pas arrivé, mais est-ce que vous avez vu un enfant dire, est-ce que tu pourrais me parler de Dieu? J'ai besoin de ça. Non, c'est la parole de Dieu qui nous rappelle de ne pas négliger ces besoins-là. Quand on lit dans Matthieu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si on se fie juste à l'enfant pour lui donner ce dont il a besoin, il va nous en manquer une partie. Parce que l'enfant ne va pas exprimer ces besoins-là. C'est la parole de Dieu qui nous guide pour développer ces besoins-là. Alors, il y a quand même des conséquences à ne pas enseigner un enfant au plan spirituel. Même dans le monde séculier, sans Dieu, les psychologues commencent à reconnaître les besoins spirituels des enfants. Je faisais des petites recherches, il y a des gros noms de psychologues complètement non chrétiens, souvent athée, mais il parle des besoins spirituels de façon différente. Mais on est dans un monde aujourd'hui où on doit faire très, très, très attention avec toutes les poursuites. Quand on est avec des enfants, il faut pas les toucher, il faut pas les embrasser, il faut pas trop les approcher parce qu'on pourrait avoir des poursuites, ça pourrait être mal perçu, l'enfant pourrait dire. Donc, les garderies, ils ont des grosses difficultés, ils ont tendance à se retirer beaucoup, beaucoup. Et puis elle disait non, les enfants là, ils ont besoin de tout ça pour mûrir. Elle va parler des besoins spirituels comme l'amour, la sécurité, l'affirmation. C'est tout. Donc, eux autres, ils disent, il y a la spiritualité, il y a la moralité, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, il y a la religion et il y a l'éthique, quelles décisions on prend. Mais en tant que chrétien, c'est sûr que nous, ça devient un ensemble. On ne parle pas de spiritualité comme chrétien sans parler de la religion. Ça va ensemble. Notre spiritualité est fondée sur Jésus-Christ, notre moralité est fondée sur la parole révélée. Donc, pour nous, ça fait un tout. Dieu se soucie aussi de chaque individu, dès sa conception. C'est toujours intéressant de garder en tête cette perspective-là parce que les enfants sont petits puis on est porté à pas les considérer nécessairement à la même hauteur qu'un adulte parce que c'est des petits. Ils sont en potentiel d'eux. Tu sais, souvent on va dire, ça c'est des futurs ci, des futurs ça. Donc, on les voit pour plus tard. Mais au psaume 139, qui est un très beau psaume sur la valeur et l'unicité de l'individu, mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, on voit l'importance que Dieu accorde à chaque individu. Et Dieu veut que la relation entre lui et l'enfant s'établisse le plus tôt possible. Et la foi chrétienne évangélique a ça de particulier, c'est que nous, on croit dans une relation personnelle avec Dieu. C'est pas juste un concept théorique ou une croyance cérébrale, tout simplement. C'est un ensemble. C'est vraiment personnel et Dieu, dans ses commandements, quand il nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Donc, c'est vraiment notre être entier et c'est personnel avec Dieu. Qui va s'en occuper? Donc, à qui revient la responsabilité de l'enseignement spirituel des enfants? Alors, j'ai un petit questionnaire pour vous. J'ai pas des crayons pour tout le monde, mais je vous donne un petit 5 minutes. Juste pour réfléchir à ça, donc je vais vous demander de le faire chacun pour soi. C'est juste un petit exercice de réflexion. Bon, est-ce que tout le monde a eu le temps de réfléchir? C'est pas trop long, mais j'aimerais peut-être qu'on fasse un petit retour là-dessus. OK, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui... Peut-être que je vais demander à 2-3 personnes de nous communiquer la question 1. Est-ce que vous trouvez que vos besoins spirituels étaient rencontrés quand vous étiez enfant? Peut-être, j'aimerais peut-être que 2-3 personnes nous partagent leur réponse. On a Elsie. Faut pas que je dise Elsa. Parle bien fort. Donc, toi, tu trouvais que tes besoins spirituels étaient remplis? OK. OK. De la part des parents. Oui, Suzanne. Est-ce que tu trouvais que ça rencontrait tes besoins spirituels? Mais c'était quand même, tu sentais que tu ressentais quelque chose de spirituel? OK. Donc, il y avait quand même des aspects que tu as pu recevoir. Oui. OK. Oui, je vais le répéter après. Je pourrais vous passer le micro tout de suite. Je vais te passer le micro. Vas-y, parce que je sais que c'est toujours enrichissant d'entendre.
Je disais que dans mon cas, c'est oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ma mère, elle n'était pas chrétienne, mes parents n'étaient pas chrétiens, mais ma mère, elle m'encourageait toujours à aller dans une église chrétienne. Donc toujours dans une église chrétienne. Et à l'église chrétienne, là où j'y allais, donc j'ai rencontré des amis de la famille, il y avait plein d'activités spirituelles pour les enfants. Donc du coup, j'ai grandi, pas dans une famille chrétienne, on va dire, mais j'ai grandi avec des amis chrétiens, et j'ai toujours eu des activités spirituelles. Bien qu'à l'époque, quand j'étais enfant, ça me permettait pas vraiment de décider, de dire est-ce que je vais choisir de marcher avec le Seigneur, mais j'étais quand même sur la bonne voie, et quand j'avais 18 ans environ, j'ai vraiment fait le choix de me donner au Seigneur. Merci.
Tu avais quel âge, guerrier, à ce moment-là? Quand tu as commencé à fréquenter l'Église, disons, comme enfant? OK, déjà, hein? C'est curieux. J'ai eu un professeur de théologie, puis c'était la même chose. Il demeurait dans la région d'Ottawa, puis ses parents disaient « Ouais, à l'église, là, ça va te faire du bien. » Puis il était un peu découragé quand il a accepté le Seigneur. Mais il y avait des autobus qui passaient dans ce temps-là, là, on recule. Puis peut-être qu'il voulait la paix, mais c'est quand même intéressant de penser que... En tout cas, moi, je trouve que Dieu, moi, je pense que ça venait de Dieu. C'est dommage qu'elle... Est-ce qu'elle est devenue chrétienne, Thomas? Non, pas encore. Mais c'est dommage, mais c'est dur à comprendre, hein, que des non-chrétiens vont encourager d'autres personnes, puis les voies de Dieu sont impénétrables. Mais Dieu, on le voit dans les Écritures, il peut agir à travers n'importe qui, des non-chrétiens, des chrétiens, même les non-chrétiens, c'est pas une difficulté pour Dieu. Oui, Mimi? Amen. Okay. Merci. Merci. Donc, Dieu veut épargner quand même aux parents les déceptions, les pleurs, les souffrances. C'est pourquoi dans sa sagesse, il conjure aux parents d'instruire les enfants alors qu'ils sont encore tout jeunes. Dans la Bible, chaque fois qu'un commandement fait référence à l'instruction des enfants, donc Dieu s'adresse premièrement aux parents qui sont les premiers éducateurs des enfants. On va aller lire un passage dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament toujours, au chapitre 4, versets 6 à 9. En fait, on va recommencer plutôt au verset 5, donc 5 à 9. Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé. Ça, c'est Moïse qui parle avant qu'il puisse traverser la terre promise, eux autres. Donc, les commandements, mon Dieu me l'a commandé afin que vous les mettiez bien en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui a des prescriptions et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Et juste ce passage-là, moi j'aime toujours dire à mes enfants à tout moment, vous avez aucune idée quelle chance que vous avez que je sois chrétienne. Parce que si je n'étais pas chrétienne, voilà comment ça serait probablement, parce que c'est sur cette voie-là que je m'en allais. Et moi j'ai été une personne très rancunière, je pense que j'aurais pas été très très commode avec les enfants, puis je leur dis, vous devez remercier Dieu qui a changé un peu l'histoire, un peu comme le peuple d'Israël qui était dans le désert, ben en fait qui était en Égypte esclave, et que Dieu a permis de sortir de l'esclavage. De la même façon, c'est bon de raconter à nos enfants comment aussi Dieu nous a sortis de l'esclavage et que ça a un impact sur eux jusqu'à maintenant. On va aller maintenant, on va tourner dans Deutéronome au chapitre 6. On va le lire au complet. Je le trouve tellement beau. Je me disais, une fois par année, c'est pas trop. Alors, c'est l'amour, le titre, c'est « Amour pour Dieu et observation de ses commandements ». Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession, ou on pourrait dire dans votre nouvelle vie chrétienne. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et vous tous ici même, et tu les observeras pour les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras, tu les attacheras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quand l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusé, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Et lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, c'est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par son nom. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface du sol. Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez bien les commandements de l'Éternel votre Dieu, les déclarations et les prescriptions qu'il vous a commandées. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, en repoussant tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque demain, ton fils, tes filles te demanderont, « Que signifient ces déclarations, ces prescriptions et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a commandées? » Tu diras à ton fils, « Nous étions des esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte à main forte. L'Éternel a opéré sous nos yeux des signes et des prodiges grands, et désastreux contre l'Égypte, contre le Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses prescriptions et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a commandé. » Donc ici, à l'époque, il y en a encore, je suis pas mal sûre, des plus orthodoxes qui vont porter un petit phylactère au niveau du front. C'est un petit contenant en cuir avec des petits morceaux des écritures fins. Puis c'est un peu en référence à garder les commandements, tu les garderas à ta main et sur ton front. Mais on sait que Dieu veut parler quand même de, c'est quand même au sens figuré quand même de les garder près de notre cœur. Donc, d'enseigner aux enfants dans l'Ancien Testament quand ils amenaient. Donc, il y a les parents, la famille dont on parlait, qui peut contribuer à l'éducation spirituelle. Il y a aussi l'Église. Donc, dans l'Église, il y a différents aspects de l'Église. Donc, il y a l'école du dimanche. Celle-là, je la trouvais trop cute. C'était avant mon temps. Peut-être Marie-André. Alors, les gars, ils avaient l'air séparés des filles. Ça. Et c'était assez straight. Ouais. Donc, je pense que la dernière image illustre bien qu'on essaye de rendre les histoires bibliques vivantes à l'école du dimanche. Mais on espère que ça reste pas juste des histoires, mais que eux peuvent faire une application dans leur vie aussi pour la mettre en pratique. Donc, c'est important dans notre approche de l'école du dimanche. Il y a l'adoration aussi à l'église. Donc, quand les enfants participent à l'adoration, je la trouvais trop cute. Alors, je pense que les enfants, c'est une partie où ça leur permet d'expérimenter aussi la reconnaissance, l'action de grâce, la célébration, les louanges qu'on envoie à notre Dieu. Il y a les autres membres du corps de Christ. Donc, mes frères et mes sœurs, je vous invite à être conscients de ça et de prendre ça sérieusement. Souvent, quand je viens le dimanche matin, je vais demander à Dieu qu'il m'utilise pour qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Et c'est pas juste au plan adulte, mais avec les petits aussi. Puis je voyais ma sœur Elisabeth ce matin, qui le mettait en pratique avec Jessica, Lauriane, juste de parler. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous en êtes? Pour donner ce sens de la famille, et ce sens de l'importance de l'être humain aussi, ça donne une valeur spirituelle quand même à l'être humain d'être considéré comme ça et qu'il y ait des gens qui nous demandent comment ça va. Donc, je vous invite vraiment à être à l'écoute de Dieu dans cet aspect-là de votre vie. Quand vous venez ici, de prendre au sérieux de bénir quelqu'un autour de vous, d'encourager quelqu'un autour de vous. Il y a l'école chrétienne aussi, qui est une institution où l'enseignement se fait avec quand même le curriculum du ministère, mais avec une approche qui est enseignée par des professeurs chrétiens. Et c'est sûr que c'est plus facile à ce moment-là de faire une application directe sur place par les professeurs chrétiens. Donc maintenant, le comment. C'est notre dernière partie. On a parlé du pourquoi, donc Dieu nous le demande de faire l'éducation. On a parlé du qui, donc des parents, la famille élargie, l'Église. Et maintenant, comment on s'y prend? Donc, c'est sûr qu'à la base, moi, je pense que la parole de Dieu reste le fondement. Donc, des fois, on se dit, ouais, mais là, ils sont trop petits. Quand ils seront plus vieux, ils savent pas lire. Donc, quand ils seront capables. Mais de plus en plus, tout petit, il y a des petites bibles, des bibles à images, ne serait-ce que pour juste connaître un petit peu le contenu de la Bible. Donc, des bibles, il y a des bibles à images. Il y a des bibles de toutes sortes vraiment aujourd'hui. Là, on peut pas dire qu'on n'a pas d'outils pour enseigner la parole de Dieu. Moi, quand j'étais petit, je voulais toujours les exposer au moins aux histoires, puis on progressait. Ensuite, la Bible en bande dessinée, ça permet de faire un survol de toutes les écritures rapidement avec des dessins. Donc, ça donne une perspective, une vue d'ensemble à ce moment-là. Puis après, quand ils sont un peu plus vieux, ils peuvent lire les Écritures. Quand Myriam, elle nous a demandé, peut-être il y a un an, bon, là, c'est facile, le Nouveau Testament, je vais aller dans l'Ancien Testament, commence à Genèse. Je me disais, oh mon Dieu, j'aurais pas pensé de lui offrir ça, parce qu'il y a des livres assez difficiles à comprendre, le Lévitique, etc. Mais non, je me suis dit, bon, on va y aller. Puis finalement, ça l'intéresse. Puis c'est des fois, on pense que les enfants sont pas prêts pour ça, mais en tout cas, c'est à expérimenter, mais c'est quand même la base, la parole de Dieu. Le plus difficile, c'est la discipline. Donc, encore une fois, les enfants disent, c'est rare. Mais moi, souvent, Myriam, elle peut venir et dire, maman, faut que tu lises ma Bible. Mais là, il est 9h15, il est trop tard, là. Fait qu'elle va me le demander parce que c'est dans une routine. Mais moi, faut que j'organise le temps en conséquence. Faut que j'aille à 7h, lui dire, bon, là, va commencer à te préparer. Non, il est trop de bonheur. Hein? Je vois ma soeur Karine, là, qui est pas son mari. Et puis, je me dis, oh! Quel défi! Parce que nous, on prend un soir. Mettons, Benoît, c'est à ton tour ce soir. Moi, c'est le lendemain. Alors, que Dieu t'accorde sa grâce, ma sœur. Mes prières vont vers toi parce que c'est tout un défi de maintenir une discipline, de donner un cadre où il reste du temps pour lire la Bible. Donc, une des choses, nous, qu'on a commencé à un moment donné, c'est de fermer la télé durant la semaine. Parce que ça nous bouffait trop de temps. Puis bon, ben là, vite va te préparer. Ben là, j'ai pas fait tes devoirs. Comment ça, t'as pas fait tes devoirs? Ben là, j'ai regardé mon émission XYZ. Puis là, il y en a-tu assez? Puis ils sont bien intéressants. Ils sont drôles. Ils sont pas toutes mauvaises. Ils sont entertaining. Mais à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. Donc, faut savoir donner l'encadrement. Et c'est pénible. Et c'est fatigant pour les parents. Et c'est usant de toujours aller vers ça. Mais mes frères et mes sœurs, je veux qu'on s'encourage les uns les autres à persévérer. Oui, il y a des rechutes. Pour nous, les rechutes, c'est l'été, c'est extrêmement difficile. L'horaire est tout bouleversé. On se couche tard. Il y a plus d'horaire. C'est très difficile pour nous l'été de maintenir un horaire, une discipline à ce niveau-là. Les fins de semaine aussi. Puis, ça peut être correct aussi de dire, bon, on se couche un peu plus tard, tout ça. Mais je pense que c'est important. Puis aussi, quand on lit la Bible, il y a peut-être deux aspects. C'est le fun de communiquer à l'enfant, qu'est-ce que nous, on a compris, mais c'est le fun aussi de laisser une pause, un silence. Puis, je trouve qu'il faut créer de l'espace pour qu'il y ait du silence. Souvent, ma petite, elle va amener des réflexions quand c'est tranquille. Mais encore une fois, souvent, il est trop tard. À 9h15, ça est temps. Bon, ben là, oh oui, maman, comment ça se fait que telle affaire, là, c'est comme, garde, non, il est trop tard, là. Mais si ça avait été calme avant, s'il y avait eu un espace de silence avant, ben ça serait sorti ces choses-là. La prière, donc, de l'inclure dans nos journées. Encore une fois, la routine, ça aide beaucoup, que ce soit avant d'aller à l'école, quand mes plus vieux étaient petits, avant qu'ils embarquent dans l'autobus, à la maison, j'aimais ça prendre un temps de prière avant qu'ils commencent leur journée. Donc, prendre un temps de prière à la porte, avant le repas, remercier Dieu pour ses provisions, sa nourriture. Quand on se couche, quand il y a des difficultés, « Hey, qu'est-ce que tu penses qu'on va prier Dieu pour tout de suite? » Laissez l'enfant prier aussi. Nous, on a l'habitude, il y a tellement de risques, hein, quand on part en voyage, on a toujours l'habitude de demander de la protection de Dieu sur la route. J'aurais dû mettre l'adoration, je l'ai pas mis. J'ai pas le don de ma sœur Suzanne. Je sais qu'elle, ses enfants, ils ont été exposés beaucoup à la louange. Elle mettait des CD chrétiens, des chansons en français, en anglais. Je sais que ses enfants, ils ont été beaucoup exposés à ça. Ben, moi, je l'ai pas fait beaucoup. Le pardon. Combien c'est important pour les enfants de vivre le pardon à la maison. Donc, on parle d'éducation chrétienne. Ça, c'est une éducation très pratique. Que nous, comme parents, on puisse demander pardon à nos enfants, que nos enfants puissent se demander pardon les uns aux autres. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. C'est une jeune fille qui s'en allait à l'université, puis elle avait plein de bagages à apporter. Puis au lieu qu'elle retourne en autobus, son père dit « Gars, je te prête l'auto, garde-les pour transporter, puis la prochaine fois que tu reviens, rapporte-les, puis ça va être correct. » Elle n'avait pas vraiment comme l'autorisation de s'en servir, parce qu'elle allait sur le campus, puis elle restait là. Mais bon, à un moment donné, il est tard, j'ai plus de lait, au dépanneur, ça va aller plus vite en auto. Donc, elle s'en est servie de plus en plus. Et à un moment donné, bang, l'auto ne roulait plus. Elle avait pas fait les changements d'huile. Il n'y avait plus d'huile et le moteur a pété. Fait que là, elle est obligée de le dire à son père. Alors, l'auto est finie, m'en suis servie finalement plusieurs fois, nanana. Fait qu'en tout cas, à un moment donné, elle est de retour à la maison. Puis là, son père, il dit, « Hey, c'est quoi un des bons restaurants ici? » Puis elle dit, « Ah, tel restaurant, c'est vraiment un des meilleurs. » Bon, mais il dit, « Je t'amène. » Là, elle dit, « C'est pas vrai. Mon père m'amène dans un des meilleurs restaurants pour me faire le sermon de ma vie. Oh. » Fait qu'elle dit, « Bon, coudonc, allons-y. » Fait que finalement, il se rend au restaurant. Puis là, son père, il dit, « Aujourd'hui, ma fille, je vais t'enseigner la plus grande leçon de ta vie que tu n'oublieras jamais. » Fait que là, je dis, ah, ça y est, là, c'est là, là. Il dit, je vais te montrer comment ouvrir un poisson sans briser la peau et tout ça. Et puis, ça, c'est super important que tu retiennes ça. Et il n'a jamais parlé de l'incident de l'auto. Finalement, elle a retenu la vraie leçon. Et il y a des moments pour ça où, dans notre vie, oui, nos enfants doivent être redevables. On veut que nos enfants ils soient des gens responsables, qui aient des conséquences pour leurs actions. Mais en même temps, je pense qu'on doit demander à Dieu de nous montrer les occasions où ils doivent. On leur aide à expérimenter le pardon véritable que nous-mêmes on a reçu par Jésus-Christ. OK, ça, c'est un point que je trouve super important parce que on a tendance à faire une distinction entre le sacré et le reste. Donc, la Bible, la prière, ça, c'est Dieu, et le reste, ça, c'est séculier, ça n'a rien à voir avec Dieu. Moi, je trouve que si je vois pas ça comme ça, puis je pense que c'est important de le transmettre à nos enfants. Et on est les mieux placés comme parents parce qu'on sait qu'est-ce qu'ils voient à l'école, puis c'est eux qui nous amènent des commentaires. Alors, quand on parle de paradigme, c'est un modèle cohérent de la vision du monde. Donc, je reçois de l'information, comment je l'interprète, comment je vais la filtrer? Par exemple, la biologie. Même ce matin, je m'en venais, il y avait deux petits écureuils. Ils jouaient ensemble. Je suis sûre que vous avez vu ça. Des écureuils qui se courent, puis... Mon dos, ils n'ont aucun souci. Eux autres, la vie est belle, hein? Les noix, ils tomberont quelque part. Puis en tout cas, moi, quand je vois ça, ça me rappelle le cœur de Dieu. Je me dis, si Dieu a pensé à faire des créatures comme ça, qui aiment s'amuser juste pour le plaisir, c'est des choses qu'on peut faire amener à nos enfants à observer, à prendre conscience. C'est ça que je veux dire comme par paradigme. De dire, un autre exemple, un enfant qui dit, « Maman, c'est l'enfant, il m'aime pas, puis il m'a dit qu'il voulait pas être mon ami, puis tout ça. » OK, on peut dire, « Ben, non, occupe-toi-en pas. » Non, comment on peut interpréter ça en tant que chrétien, dans la perspective de Dieu, que Dieu est créateur, qu'il y a le péché dans le monde, que nous, on n'est pas parfait, peut-être qu'on a fait des choses à l'autre. Si oui, est-ce qu'on doit lui demander pardon? Est-ce que l'autre nous a fait quelque chose? Il est pécheur, lui aussi, il est déchu. Est-ce que je dois lui pardonner? Est-ce que je dois me venger? Donc, toute cette intégration-là de la foi, je trouve qu'elle est super importante pour pas justement que nos enfants séparent le sacré du reste. Je pense que Dieu est partout et toute notre vie, tout ce qui nous entoure est sous le regard de Dieu. Donc, on a parlé de l'adoration, de l'école du dimanche. Donc, c'est sûr que pour que les enfants profitent, les parents n'ont pas le choix, qu'ils puissent profiter de cet aspect-là, il faut que les parents les amènent. Donc, il faut que les parents se disciplinent eux-mêmes. Et il y a un verset ici dans Hébreux où on peut lire « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Donc, le défi, là, c'est vraiment le matin, mais le matin, ça part la veille. Parce que quand ma fille me dit, oh, je suis trop fatiguée le dimanche matin, trop fatiguée là, mais malheureusement, souvent, ça vient de la veille. Fait qu'avec le temps, on a appris, OK, le vendredi soir, je vais se coucher tard, OK, 10 heures. Mais avant, c'était 10 heures le samedi soir aussi. Mais là, ça marchait pas, là. Là, elle était de mauvaise humeur. On a dit non. Là, ça va être 9 heures le samedi soir. Puis, des fois, elle va me dire, « Maman, je veux regarder un film, il est 8 heures. » Je vais dire, « OK, mais regarde, moi, c'est bien de valeur, là. À 9 heures, t'es dans le lit, les miens fermés, tout ça. Soit tu le regardes demain, ou soit que t'en regardes juste une partie. C'est ton choix, mais on change pas notre programme. » Donc, il y a tout ça qui est encore remis aux parents de gérer l'horaire, de gérer la veille, pour que les enfants puissent avoir une direction. Il y a d'autres aspects que je vous mentionne rapidement. Je lisais ça puis je trouvais ça intéressant. Comment amener nos enfants à développer un sens d'émerveillement et de révérence? Donc, juste les amener à découvrir de nouvelles choses, de regarder un coucher de soleil, un lever de soleil, un oiseau qui s'amuse juste à sentir le vent puis avec les coups de vent qui arrivent, puis les courants qui tombent, puis on voit le plaisir. Je disais, waouh, c'est incroyable. Je pense que c'est important ça n'a pas besoin de coûter cher, ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps, mais de saisir cette opportunité de développer chez nos enfants un sens d'émerveillement, parce que tout ce qui est créé vient de notre grand Dieu. L'affirmation aussi, donc c'est comme un aspect de l'amour, mais d'encourager les bons comportements, mettre des limites et donner une direction et la confiance pour grandir et se développer. Je pense que comme parents chrétiens, je pense que Dieu nous donne cette responsabilité de donner une direction. C'est pas vrai que chez nous, ça va se passer de telle façon. Je vais vous donner un exemple. Quand les enfants venaient nous visiter, il y avait des voisins, tout ça, ils venaient. Là, mes enfants disaient « OK, bye! » Non. C'est pas comme ça qu'on traite le monde. Ils sont venus, tu les as invités ou ils se sont invités, peu importe, ils quittent. Tu te rends à la porte et tu vas les saluer et tu restes le temps qu'ils ne sont pas sortis. Donc, moi, j'avais vraiment ça, j'avais appris l'accueil et j'ai cette valeur en tant que chrétienne que chaque être humain est important, qu'on doit être délicat, qu'on doit bien traiter les gens, non pas juste comme « bon, j'ai eu du fun, OK, bye, va-t'en. » Non. On doit prendre soin des gens qui nous entourent. Donc, je pense que c'est important d'entendre cet appel de Dieu qui nous demande de donner la direction à nos familles. Participation, responsabilité, ça, les parents, on est bien contents quand nos enfants participent. C'est dur, par exemple. C'est difficile de maintenir encore là. On leur dit, toi, t'es responsable de ça. On a négocié ça. Tout le monde est d'accord, mais ça se fait pas. Faut revenir à la charge. Donc, mais c'est important je pense que ça fait partie de notre identité chrétienne que Dieu nous a créé, qui a un plan pour nos vies. Alors, de s'impliquer dans notre famille, dans nos environnements. Puis j'avais mis aussi de favoriser les amitiés entre chrétiens aussi. Je pense que c'est encourageant pour mes enfants de côtoyer d'autres chrétiens aussi. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Et c'est pas un ministère qui est facile. Je pense qu'on a des succès, on a des défaites, et on a des rechutes et on a des victoires. Mais je pense que l'important, c'est que ça soit sur un processus continu. Et qu'on n'abandonne pas, qu'on persévère. Le résultat n'est pas garanti. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on puisse se présenter devant Dieu puis dire, Seigneur, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je te confie mes enfants pour le reste. Alors, je vais juste terminer dans la prière. Seigneur Dieu, on sait que toute vie vient de toi et que nous-mêmes, on a été des enfants et tu nous as confié des enfants. Seigneur, l'avenir de ces enfants dépend tellement des choix qu'ils vont faire. Et on espère, Seigneur, qu'on va pouvoir les guider, qu'on va avoir la force, la détermination, la conviction de les guider dans tes chemins, parce que tu es le seul vrai Dieu, Seigneur. Fortifie chacun de nous. Parle dans ton Saint-Esprit pour nous montrer où on doit apporter les corrections. Donne-nous la force, Seigneur, par ton Saint-Esprit, d'amener à terme ce que tu nous montres comme engagement. Bénis nos enfants et permets que, par-dessus tout, on puisse les aimer et par amour pour eux, qu'on puisse les nourrir et les aider à se développer spirituellement. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'on te prie. Amen.